Bien, ben donc, vous avez donc vu que nous accueillons Benoît Labourdette sur un thème qui se présente volontairement comme iconoclaste, le téléphone mobile est-il l'avenir du cinéma? Alors Benoît est réalisateur et producteur et de ses propres films et directeur artistique du festival Pocket Film, dont vous voyez déjà une présentation, donc il va nous en parler. Alors, ce qui m'a paru intéressant dans la présentation d'aujourd'hui, c'est ça que je lui ai demandé d'être là aujourd'hui, ben c'est que on travaille sur l'interférence de la technologie et de l'image. On travaille sur la manière dont l'utilisation d'une certaine technologie ben, modifie les images qu'on fabrique et puis modifie aussi le rapport qu'on a au monde et la manière dont on voit le monde. Alors, on va parler de détournement, on va parler d'objets, on va parler de rôle du médium, et puis on va surtout voir des images étranges, n'est-ce pas Benoît?
Merci Serge. Juste pour situer le commencement, si vous voulez, ça a commencé un petit peu par le festival Pocket Film. C'est un festival qui entre dans sa 6e année, qui est produit par le Forum des Images, et le Forum des Images m'a demandé, il y a donc un peu plus de 5 ans, d'inventer quelque chose autour du téléphone portable et de l'apparition de la caméra dans le téléphone portable. Moi, j'ai avant ça beaucoup utilisé des petites caméras, Super 8, vidéo, etc. Donc je me suis senti tout à fait à mon aise là-dedans, et j'ai toujours travaillé autant dans la technique que dans la création. Et si vous voulez, avec ce genre d'outils, la technique est absolument immédiate. Alors, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de choses, et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que on a monté ce festival et que ce festival a une certaine importance maintenant dans son domaine, petit domaine, mais quand même une bonne importance là-dedans. Et donc, c'est un élément assez important de l'institutionnalisation, si on peut dire, de ces pratiques-là. Et donc c'est pour ça qu'il me semble intéressant de commencer sur les raisons de l'existence d'un tel événement qui va du coup donner une légitimité à des choses qui au départ n'en ont absolument aucune, ce qui est bien normal. Et en fait, je parle donc un peu de technologie, parce que forcément on parle de technologie. Les téléphones portables, le réseau qu'on utilise quand on utilise des téléphones portables depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle le réseau 2G, c'est un réseau numérique. C'est-à-dire que ce qui passe entre les téléphones, c'est du numérique à un débit assez faible. On s'en rend compte le vendredi soir quand on essaie de téléphoner, qu'on est dans le métro, on a du mal parce que bah, c'est plein, quoi, hein, le débit est plein. Et il se trouve que les opérateurs, les grands opérateurs français ont acheté à l'État le droit d'exploiter une nouvelle bande de fréquence qu'on appelle UMTS. Ils ont acheté ça au début des années 2000. Il leur a fallu déployer des nouvelles antennes, etc. À quoi ça sert tout ça? Ça leur a permis d'ouvrir à la fin de l'année 2004 un nouveau réseau de téléphonie mobile qu'on appelle 3G à haut débit. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu comme entre l'Internet à bas débit et l'Internet à haut débit. L'Internet à haut débit a rendu des choses possibles qui n'étaient pas avec l'Internet à bas débit, notamment la vidéo, mais entre autres choses. Et donc, ces gens-là qui payent 650 millions d'euros pour pouvoir exploiter cette bande de fréquence pendant quelques années, leur objectif, c'est quoi? C'est de nous vendre des nouveaux services sur le haut débit de ce nouveau réseau. Donc, quels sont ces nouveaux services? Il y a les services data pour envoyer plus de données, etc. Mais il y a entre autres choses la vidéo. C'est-à-dire qu'avec un téléphone 3G, je peux faire de la visiophonie. C'est une chose qu'ils ont lancée donc à la fin de l'année 2004. C'est-à-dire que je peux faire un appel visio, je peux voir mon interlocuteur. Il se trouve que ça n'a pas marché. Personne n'utilise la visiophonie. Mais au demeurant, et c'est pour ça que je fais cette longue introduction technologique, un téléphone portable capable de se connecter au réseau 3G doit absolument, c'est obligatoire, pouvoir vous vendre ces nouveaux services. Donc un téléphone portable 3G a forcément une caméra et un récepteur vidéo. C'est obligatoire. du fait qu'un jour il n'y aura plus que le réseau haut débit, un jour le réseau bas débit disparaîtra, on savait, on pouvait savoir dès la fin de l'année 2004 qu'un jour tous les téléphones, sans exception, seraient dotés d'une caméra. Et ça nous a paru quand même, enfin moi ça m'a paru assez intéressant. Et l'idée de ce festival, il y a une autre raison de son existence, beaucoup moins glorieuse, et c'est important d'en parler aussi. Il m'a paru intéressant d'accompagner une technologie en train d'arriver, en train de s'installer. C'est pas du tout pareil il y a 5 ans, début 2005, et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous posez la question à des adolescents, c'est à 99,9% d'équipement, ils ont une caméra dans leur téléphone. Si je pose la question ici, je pense que tout le monde n'a pas... Qui n'a pas de caméra dans son téléphone? Ça m'intéresse de savoir. Ah, ben j'aurais posé la question il y a un an, j'aurais eu beaucoup plus de mains qui se levaient. Je suis étonné, ça va même un peu plus vite que ce que je pensais. Mais oui, c'est bien de ça dont je parle. C'est que si vous voulez, le téléphone portable, il se trouve que dans nos sociétés, il y a des pays où ils sont moins développés, mais enfin, ça se développe beaucoup, et notamment dans les pays en voie de développement. Le téléphone portable, on l'a tout le temps sur soi. Qui oublie son téléphone portable? Enfin, c'est vraiment notre prothèse de communication, c'est l'éclatement de la sphère privée, enfin... C'est de la folie, quoi, si on peut dire, hein, d'une certaine manière, mais c'est comme ça. Voilà, on est esclave de ce machin-là, c'est comme ça, c'est notre vie d'aujourd'hui. Bon, et après, il y a tout, on peut réfléchir là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi là-dessus. Et si vous voulez, nous voyant la vidéo arriver, on s'est dit, ça vaut le coup de réfléchir là-dessus. Et alors, pour réfléchir là-dessus, alors l'autre raison moins glorieuse de l'existence, c'est que le Forum des images, donc vous connaissez sans doute, qui produit cet événement, était en contact avec SFR, et SFR voulait, comme il lançait justement ses nouveaux services, voulait les valoriser, et donc a proposé, et donc vous voyez un petit logo SFR sur le site du festival, a proposé de donner de l'argent pour participer à l'organisation d'un événement, pourquoi pas, et en l'occurrence ça se passe plutôt bien. Donc si vous voulez, comment faire, on voulait faire un événement culturel comme ça, mais aucun film n'existait, et même la notion même de film, on savait que les gens filmeraient avec ça, mais faire un film, enfin, on n'osait même pas y penser. Et du coup notre démarche, dans la mesure où on voulait faire quelque chose mais il n'y avait pas d'objet à montrer existant, notre démarche a été de proposer à des gens. Donc on a prêté des téléphones, on a proposé à tout un tas de personnes, qu'ils soient cinéastes, vidéastes, plasticiens, écrivains, musiciens, enfin justement à dessein des gens qui n'étaient pas forcément des gens de cinéma au départ. On a aussi proposé à des gens de cinéma qui ont gentiment refusé, ce que je peux comprendre aussi. Alors voilà, il y a eu cette démarche un petit peu d'investigation, et moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné. C'est que à un moment donné, quand les téléphones ont commencé à s'installer chez les gens, je me suis dit on n'aura plus besoin de proposer, de soutenir des projets, de lancer des initiatives, de dire à des gens tiens vas-y, tu ne voudrais pas essayer de faire un film avec ça, etc. Et en fait, il y a toujours autant besoin. Parce que si vous voulez, le téléphone portable, c'est l'outil du quotidien, il filme, d'accord, mais de là à faire un film... Je veux dire, ça n'a rien à voir. Moi, je distingue deux types de films qui sont produits avec cet outil-là. Il y a le film intime, on va dire, le film pour son cercle de proches, le film qu'on met sur Facebook, qui peut-être va nous porter préjudice dans 10 ans, mais enfin bon, sur le moment, on ne s'en rend pas du tout compte. Et ça, si vous voulez, ce sont des films fortement contextualisés. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vois beaucoup avec des jeunes... Ils se montrent les uns aux autres des films qu'ils ont fait dans une soirée, alors on voit quelqu'un qui se marre, etc. Mais nous, ils se marrent tous parce qu'ils étaient à la soirée, on les a entendu parler, mais nous on sait pas la blague, donc on est complètement extérieur, on reste extérieur au truc, donc on n'a pas le contexte. Donc c'est vraiment des films qui ne fonctionnent que dans un contexte extrêmement restreint, donc c'est, je dirais, des films de famille, hein, et nous, ce qu'on propose, c'est un autre type de travail avec cet outil-là, c'est-à-dire des objets qui s'adressent à un autre, quoi, qui s'adressent à quelqu'un qui est en dehors de notre cercle. Et donc, à partir de là, on va devoir produire une forme, etc. Et c'est un usage qui ne se fait en fait quasiment jamais avec téléphone portable. Et si vous voulez, ça, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un petit peu comme le caméscope. Donc aujourd'hui, c'est assez massif, enfin le nombre de personnes qui ont des téléphones portables, qui filment. Mais c'est pas pour ça qu'il y a plein de cinéastes qui sont nés, etc. C'est pas vrai du tout. C'est d'ailleurs assez marrant. Là, dans le cadre du festival, notre appel à films est arrêté. Donc on a reçu les films et c'est la première année qu'on en reçoit si peu. Étonnamment. Alors, ils sont plutôt très bons, ceux qu'on a reçus. Donc, tout va bien hein, pour le festival. Mais on en a reçu beaucoup moins que les années précédentes. bon, voilà, ça c'est un petit peu pour le contexte. Alors après, il y a beaucoup d'objections sur le fait que, oui, mais la qualité technique, c'est pourri, etc. C'est pas aussi bien qu'une caméra et tout. Alors ça... si vous voulez, ce qui me semble intéressant moi dans cet outil, c'est pas du tout de dire ça va remplacer la caméra. C'est pas une caméra, c'est un téléphone, c'est tout sauf une caméra, sauf qu'il y a une caméra dedans. Et du coup, comment l'image advient ? Quelles images sont faites avec ça ? Alors, il y a les images sociales, on va dire, qui sont faites d'elles-mêmes, et puis il y a les propositions artistiques. Et si vous voulez, les artistes ont beaucoup de choses à nous dire aussi sur nos pratiques. Et du coup, c'est pour ça que notre approche, ça a été de demander à des artistes, finalement, de s'approprier cet outil pour nous éclairer aussi, peut-être, dans nos usages. Alors, c'est quoi ? Je vais vous montrer quelques films dans quelques instants pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter, parce qu'on n'a pas forcément vu... On a tous vu des choses faites avec des téléphones portables, et puis de plus en plus... Dans l'information, on a les images des téléphones portables. C'est la nouvelle ontologie, quoi. C'est-à-dire, si c'est filmé avec un téléphone portable, ça veut dire que c'est vrai, ça existait, etc. Alors que ce qui est filmé avec une bonne caméra, on peut mettre en doute la véracité des choses. Mais ça, c'est assez incroyable. J'ai fait une expérience il y a pas très longtemps, un atelier à Montpellier. Il y avait un atelier l'après-midi et puis le soir, les spectateurs étaient invités. L'un des films de l'atelier, je vous le décris, c'était quelqu'un qui était en train de téléphoner, soi-disant en train de téléphoner. On voit l'image captée sur le côté, et puis il parle, il dit « Ah, j'ai eu une journée de merde, c'est un étudiant, j'ai eu des mauvaises notes, j'ai eu tel problème. » Et puis on voit au loin quelqu'un avec une cagoule qui s'approche, et puis qui lui chope le téléphone. « Ah, mon téléphone !» Donc il a eu une journée de merde, et en plus il s'est fait piquer son téléphone. Et nous, ce qu'on voit, c'est ce que le téléphone filmait pendant la conversation. Ça n'existe pas. On ne peut pas filmer pendant qu'on téléphone. Personne n'a jamais fait, on ne peut pas le faire. Et j'ai dit, donc au public qui arrivait, j'ai dit, c'est marrant, tout à l'heure on a fait un atelier, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé par terre un téléphone et vu une vidéo dedans. Et voilà la vidéo qu'on a trouvée dans le téléphone et je montre cette vidéo. Tout le monde a marché. C'est-à-dire ce truc absolument invraisemblable, tout le monde a cru que c'était un vrai, quoi. Alors que ça ne peut pas exister, ce film-là. Et voilà, donc si vous voulez, il y a une sorte de charge comme ça, véridique, et il y a des théoriciens de ça, hein. C'est ce qu'on appelle l'authenticité, donc il y a une sorte d'authenticité là-dedans qu'on exploite beaucoup, et qu'on voit, si vous voulez, dans des productions, alors c'est pas forcément que le téléphone d'ailleurs, mais quand vous voyez le dernier film de Brian De Palma, Redacted, qui est fait soi-disant à partir d'images amateurs, etc. C'est un film que j'aime pas beaucoup d'ailleurs parce que je trouve qu'il est très malhonnête sur beaucoup de points. Mais si vous voulez, on va raconter l'histoire avec ces moyens. Si on voit Rec, je ne sais pas si vous avez vu Rec et Rec 2, ces films espagnols où tout le point de vue est le point de vue du caméscope, hein, on est pris dans le caméscope. Il y a aussi, c'est une nouvelle façon de raconter des histoires. Il y a aussi le dernier de la série des morts vivants, Diary of the Dead de George Romero. Donc le journal des morts vivants où tout est filmé au caméscope par des étudiants de cinéma. Donc le moment où il a plus de batterie, il est branché à la prise de courant, donc il peut plus bouger, il peut juste faire un panoramique comme ça. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je parle d'avenir du cinéma. L'évolution, la représentation amateur de l'image qui était absolument l'image honteuse à la limite, qui avait sa fonction, et Roger Audin en a magnifiquement parlé et même inventé le concept, je pense. Mais ça, aujourd'hui, ça a évolué. Parce que, si vous voulez, si vous regardez les audiences sur YouTube, les plus fortes audiences, c'est-à-dire ce qui ramène le plus de chiffres d'affaires à Google, parce que Google, YouTube, c'est la même chose, c'est des vidéos amateurs. Parce que, justement, elles sont authentiques. C'est ça qu'on a envie de partager. Et il y a des sites comme aika.com, par exemple, qui sont des sites où les annonceurs publicitaires vont mettre leurs annonces et où les gens, donc on passe plus par une agence de publicité avec des créatifs, les gens font les films et puis Nike va choisir parmi les 20 films faits celui qui lui plaît le plus, c'est un peu amateur, etc. Mais ça a plu encore plus aux gens parce que justement c'est authentique. Et du coup ils se servent, ils donnent 3000 euros et voilà, et à des choses qui leur coûtaient beaucoup plus cher avant. Donc on est dans ce monde-là, dans l'exploitation de l'image amateur et du coup... Ça rentre dans les représentations aussi des films de fiction et c'est bien normal. Et du coup, je pense qu'il y a des choses à faire là-dedans. Alors, je reviens quand même sur les spécificités du téléphone portable que j'ai pu constater. Il n'y a pas de genre du film tourné avec téléphone portable. Il y a des pratiques, et je vais vous distinguer, enfin, je vais vous parler de trois pratiques que j'ai notées. Mais il n'y a pas un genre, hein, c'est juste une technique. Et alors, quand on m'objecte que c'est pas sérieux de faire un film avec un téléphone portable, mais moi je dis, replaçons-nous en 1895, la caméra, le cinématographe lumière, c'est pas une caméra, c'est une machine bizarroïde qui est un hybride entre un appareil photo et une machine à coudre, parce que la technologie de l'obturateur... C'est la technologie de la machine à coudre, hein, donc si vous voulez, c'est tout sauf, enfin, c'est un objet bizarre, si vous voulez, qui produit la vue lumière, mais la vue lumière, c'est une forme de cinéma, mais celui qui, à mon sens, hein, invente le cinéma tel qu'il est devenu, tel qu'il a dominé après, c'est Méliès. C'est Méliès qui vient et donc il fabrique sa propre caméra, et lui il a perçu le potentiel narratif de la chose. Mais si vous voulez, le cinématographe lumière, il a jamais été conçu pour raconter des histoires. C'est une machine, et puis ils vendaient leurs petites places, etc., dans leurs petites projections, mais eux ils voulaient développer la photo couleur, c'était ça leur perspective commerciale, c'était pas du tout le cinématographe. Et du coup, le SMS, c'est pareil. Le SMS qui a changé notre langage, c'était pas du tout, c'était un truc de technicien, c'était absolument pas prévu pour les utilisateurs. Et en fait, tout le monde s'est mis à utiliser ça. Donc, si vous voulez, une technologie, elle ne porte pas ses futurs usages en elle. On peut pas savoir, en fait. Elle arrive, et puis après, on la détourne, on fait quelque chose, ou non, d'ailleurs, il y en a plein qui meurent. Mais du coup, pourquoi pas le téléphone portable caméra? Pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas interdit. Alors, dans les particularités, la première chose, et qui est peut-être la plus importante, la première différence essentielle entre un téléphone et une caméra, c'est que le téléphone, qu'on le veuille ou non, qu'on en pense du bien ou du mal, on l'a toujours sur soi. Et c'est la première fois qu'on a une caméra tout le temps sur soi. Combien de fois j'ai dit « Ah, si j'avais eu un appareil photo, c'est con ce coucher de soleil, etc. » Mais c'est fini, ça. Du coup, ça modifie notre relation à notre propre mémoire. Ce qui est d'ailleurs peut-être un peu inquiétant, parce que on n'a jamais autant produit d'images qu'aujourd'hui. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'un enfant de 7 ans d'aujourd'hui a été autant... filmé et photographié que Jackie Kennedy dans toute sa vie. C'est ce qu'on dit. Je sais pas si c'est bon. Mais enfin, c'est vrai qu'on n'a jamais autant produit d'images qu'aujourd'hui, mais je pense qu'on n'a jamais autant perdu d'images qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand votre téléphone, il est plein, ben, vous effacez des trucs pour faire de la place. Et même si vous déchargez votre téléphone dans votre ordinateur, c'est dans quoi? C'est dans un disque dur. Ça casse au bout de 3-4 ans, un disque dur. Est-ce que vous les avez mis sur un CD? Ça dure combien de temps, un CD? Et même si votre CD, vous le conservez, les photos qu'on mettait dans une boîte à chaussures, on pouvait l'ouvrir 100 ans après, la boîte à chaussures. Le CD, la clé USB, dans 100 ans, ça existe encore, ces trucs-là? Non, bien sûr que non. Ça aura complètement changé. Et puis, par ailleurs, si vous voulez, tout ça, c'est du codage numérique, c'est des 0 et des 1. Ça n'a aucun sens, des 0 et des 1. Rien du tout. Si on n'a pas le code, ça n'a pas de sens. C'est tout le problème de Microsoft et des formats libres par rapport aux formats propriétaires. Donc, en fait, je pense qu'on est dans une époque où on n'a jamais utiliser autant la prothèse mémorielle, mais toute cette mémoire, elle va être perdue pour son immense majorité, à mon avis. Alors, le fait qu'on l'ait tout le temps sur soi, qu'on n'ait pas eu besoin de décider de le prendre, à mon avis, ça produit d'autres actes de langage. Parce que si le matin, je choisis de mettre mon appareil photo dans la poche, déjà j'ai commencé à élaborer quelque chose. Déjà, je suis dans la disposition potentiellement de prendre une photo, ou de, vous voyez, même si c'est dans le quotidien comme ça. Alors que le téléphone, je me pose plus la question, je l'ai forcément avec moi, et du coup, si à un moment donné, je vais faire une image, c'est pour d'autres raisons. Et on le voit d'ailleurs, on voit des gens, il suffit d'aller au concert. Si on va au concert, ça, c'est incroyable, on voit tous les gens avec le bras tendu comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils gardent une trace et puis ils partagent. Vous rentrez et vous avez déjà sur Dailymotion plein de vidéos du concert dont vous êtes parti quelques temps avant. Donc c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément d'acte de langage avec des mots préalable à l'acte de captation mécanique du réel. Et quand quelqu'un fait une petite vidéo et l'envoie à un ami, il n'y a plus de mots. Et du coup, il y a peut-être l'appropriation d'un langage. Mais quel langage ? Il a quelles règles ? Ce langage, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il transmet ? Et ça me semble important. Il me semble que, de fait, on est, et ça s'est passé très vite, mais on est tous producteurs du contenu du web. Hein. On est tous éditeurs de contenu. Facebook, c'est 400 millions d'utilisateurs. C'est des gens au quotidien qui produisent le contenu du web, et on produit aussi beaucoup d'images. On produit l'image de soi, soi-même. On le voit, il suffit d'aller dans un restaurant ou quoi, les gens se photographient, se regardent. Il y a même un appareil photo, je crois que c'est un Olympus qui est équipé d'un picoprojecteur. C'est-à-dire le picoprojecteur, en fait, donc on se prend en photo et on projette tout de suite la photo sur le mur ou sur le t-shirt, etc. Donc vraiment, on fabrique l'image de soi. Et je parlais de l'acte de langage. Je pense qu'il faudrait apprendre à faire des images. Et comment on fait pour apprendre à faire des images ? C'est justement en faisant, mais dans le cadre d'un projet d'expression. Moi, je me rends compte beaucoup dans le domaine de l'éducation, c'est qu'en fait, l'appropriation d'un langage passe par le développement de la créativité, si j'ose dire, avec ce langage. Et moi, je vois beaucoup d'implications citoyennes, si on peut dire au sens large, à des propositions de création artistique, parce que c'est une façon simplement de s'approprier et d'apprendre ça. Et si vous dites, bah oui, le droit à l'image, tu peux pas filmer n'importe qui, si on dit ça, mais ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Par contre, si des personnes en font l'expérience, filment des choses, regardent, montrent collectivement, etc., et bien là, peut-être on intègre autrement et réellement la pratique de ce langage. Alors, si vous voulez, on n'a pas une caméra tout le temps sur soi. Je pense qu'il y a une élaboration avant de prendre une caméra, alors que le téléphone, il est tout le temps dans sa poche. Qu'est-ce que ça produit concrètement ? En termes de création, ça peut produire des journaux filmés, ça peut produire des... Je prends un exemple, un film fait par des lycéens, où on voit des jeunes qui prennent rendez-vous et tout ça pour aller danser la tectonique. Et puis, ils prennent rendez-vous et tout, et puis ils arrivent sur la... au hall à Paris, et puis ils dansent la tectonique, et à ce moment-là la police arrive et vas-y que je te mets par terre et que etc. Et bon, tout ça c'est filmé, c'est assez violent, c'est un peu, ils n'ont pas le droit de se réunir et tout, c'est la fin du film. Et en fait, ce film, il est né comment ? Ils dansaient la tectonique, c'est la scène réelle, et il y avait l'un d'entre eux qui était en train de filmer pour garder la mémoire, et en effet des policiers sont arrivés, les ont arrêtés, etc. Leur ont dit qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, etc. Et cette image, elle est née comme ça. Et à partir de cette image, ils ont élaboré le film qui s'est fait après coup, mais qui intègre cette image. Donc en fait, c'est le processus de l'écriture cinématographique qui change, parce que finalement, la production de l'image peut être au départ de l'écriture. Il n'y a plus forcément une écriture préalable à la production de l'image, une écriture avec des mots. Et moi, je trouve ça plutôt très bien, parce qu'il y en a marre quand même du cinéma qui est du théâtre filmé, quoi. Quand même, il y a la grande majorité du cinéma, c'est quand même pas terrible. Et là, on a du coup des choses plus essentiellement cinématographiques. Et tous les cinéastes à qui on a prêté ce genre d'outil nous ont tous dit « Mais moi, je retrouve vraiment le Super 8. » Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a aussi une chose étonnante, c'est le fait que là, c'est plus plastique que quand, dans la mesure où c'est des caméras très primitives, en fait, qu'il y a là-dedans. Lorsqu'on a filmé quelque chose, le résultat ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu. Il y a des aberrations chromatiques, il y a plein de trucs. Et du coup, ça, c'est super excitant, c'est super intéressant. Parce que tout à coup, il y a un champ pour la subjectivité, il y a un champ pour l'expérimentation plastique, etc., qui n'est pas possible avec une caméra HD qui fait des images nickel. Ça, je pense que c'est un point vraiment important, le fait de l'avoir toujours sur soi. L'autre point, le deuxième point, il y en a trois, et après je vous montre des films, c'est promis. L'autre point, c'est le fait que je parlais tout à l'heure du geste dans le concert. Quand je suis dans un concert, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs moi-même, mais je l'ai vu beaucoup faire, on le voit d'ailleurs là sur cette image, en fait on voit, on lève le bras. Parce qu'il y a simplement il y a des gens devant moi, donc je lève le bras parce que pour passer au-dessus des têtes et pour filmer quelque chose. Et lorsque je lève le bras, ça c'est un geste tout à fait nouveau. J'appuie sur le bouton, je filme, mais je suis pas en train de cadrer avec mes yeux. Je pense qu'on acquiert une sorte de compétence inconsciente que quand je suis comme ça, je sais très bien ce que je suis en train de filmer. C'est pas la même chose que ça ou que ça ou que ça. Je sais très bien. Parce que aussi les focales sont assez courtes et du coup je maîtrise mon geste. Alors il y a le bras en l'air, mais ensuite lorsque le bras descend, je peux cadrer avec mon téléphone portable comme ça. Mais on voit que dans les pratiques, si vous voulez avec un téléphone, filmer l'autre ou se filmer soi, c'est presque la même chose. C'est pas, je veux dire, c'est pas, les gens se filment beaucoup eux-mêmes aussi, ou filmer son corps ou filmer des objets, le haut, le bas, la gauche, la droite. On s'en fiche pas mal, si vous voulez. C'est des notions qui sont tout à fait différentes. En fait, là, c'est tout à fait différent d'une caméra, parce que si vous voulez, la caméra dans laquelle on cadre, même si je prends un petit appareil photo, l'écran est grand, etc., je vais cadrer là-dedans. L'image, elle est produite par le truchement de mon regard. Donc, j'avais un viseur, soit j'ai un petit écran maintenant, mais enfin, c'est la même chose. Enfin, j'ai un peu plus de distance comme ça, mais enfin, c'est un peu le même processus. Je suis derrière mon objet qui me produit une image et je contrôle mon image. Donc, je suis derrière la caméra. Donc, si vous voulez, c'est vraiment c'est l'œil dans la serrure, c'est le voyeurisme, c'est le filmeur et le filmé. C'est cette distinction-là entre les deux espaces, celui qui filme et celui qui est filmé. C'est quelque chose d'important. Enfin, le documentaire a beaucoup questionné ça, avec les cinéastes qui gardent les deux yeux ouverts, justement, pour pas être que cachés derrière leur caméra. Il y a toute une réflexion là-dessus. Mais lorsque j'ai ça et que je peux me filmer moi, filmer l'autre, etc., c'est pas du tout la même modalité. Si vous voulez, c'est un peu comme une sorte d'œil mécanique, finalement, que j'aurais dans la main et puis qui se balade. Et du coup, c'est un investissement, ne serait-ce que du corps, qui est complètement différent. C'est un geste qui est complètement différent. Il y a aussi le fait que c'est pas sérieux et qu'une image faite avec un téléphone, c'est pas quelque chose de sérieux. Donc, après tout, on est plus libre par rapport à ce qu'on fait. Et ça, si vous voulez, ça produit, je prends un exemple dans un film de Richard Texier, qui est un sculpteur, et puis c'est un film qui est en cours d'ailleurs. Il fait un petit documentaire sur Enki Bilal, et puis un jour il arrive, il filme avec son téléphone, parce qu'il filme tout le temps avec son téléphone, Richard Texier, il garde des mémoires comme ça. Il sonne à la porte, donc Enki Bilal lui ouvre et il se retrouve, donc on voit Enki Bilal, et puis il s'enlace. Et là, qu'est-ce qui se passe à l'image? Ben, il y a tout, on voit le mur, la porte, un bout de l'épaule. Et c'est un moment d'émotion très fort, parce que on a bien compris le dispositif. Et si vous voulez, classiquement dans le cinéma, il aurait fallu voir l'expression, la petite larme, je ne sais pas, même dans le documentaire, il aurait fallu fabriquer avec le regard. Alors que là, on fabrique avec le corps, et les spectateurs sont à même de le recevoir, du fait qu'on est habitué à cet outil-là. Ça, c'est aussi tout à fait important parce que ça fait bouger les formes et les films dont je parlais, Diary of the Dead, Rec, Cloverfield aussi, je sais pas si vous voyez ce film américain, c'est des dinosaures géants qui attaquent New York et qui est, là, c'est soi-disant une bande retrouvée. Et donc, c'est des gens qui ont filmé au caméscope pour garder une trace de ça. Et il n'y a jamais de point de vue omniscient, c'est toujours l'image du caméscope. Donc on est dans ce regard-là, donc si ça bouge, au contraire, c'est mieux, parce que ça donne de la véracité. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la pendaison de Saddam Hussein, les deux films. Il y avait le film d'en haut et le film d'en bas, hein, le film officiel et le film officieux. Et le film officiel, on se demandait quand on coupait, enfin les rédactions se posaient plein de questions. Et pendant ce temps-là, le film officieux, qui était beaucoup plus long, qui était la totalité de la pendaison, il circulait sur Internet, on le voyait, je suis allé le voir. Et il est super intéressant ce film parce qu'en fait on voit rien, je sais pas si vous l'avez vu, vraiment on voit quasiment rien pendant plusieurs minutes, c'est complètement noir parce qu'en fait on est en bas de la trappe sous le plancher, donc on le voit, on entend des sons, on le voit vaguement, enfin vraiment on voit quasiment rien, mais ce film je le fais dans ma cuisine et je dis que c'est la pendaison de Saddam Hussein et on va me croire. Et du coup, c'est étonnant ça, c'est vraiment étonnant. Alors, donc voilà, on l'a tout le temps sur soi, on est engagé tout à fait différemment. Pour moi, si vous voulez, alors c'est vrai que le téléphone, il a produit le happy slapping, le fait de faire un acte de violence pour en produire l'image, pour la diffuser, pour jouir de cette diffusion-là. Mais... ce qui se passe lorsqu'on filme avec un téléphone portable, c'est pas un filmeur et un filmé, c'est des gens ensemble, avec un œil qui se balade, et un film qu'on va diffuser. Donc si vous voulez, c'est une sorte de partage d'un moment d'échange. Et là, c'est tout à fait différent de la caméra, quoi. Hein, on n'est pas... il n'y a plus de cinéaste, si j'ose dire. Hein. Enfin, où le cinéaste, il est autrement. Et puis troisième et dernier point, c'est le fait que, et ça c'est quelque chose qui déborde bien sûr le téléphone, ce qui est arrivé à la même époque en 2005, c'est YouTube. C'est-à-dire la possibilité pour tout un chacun de mettre une vidéo en ligne et de la rendre disponible à tout le monde. Avant YouTube, si je faisais un film... pour le montrer à des gens que je connais pas, fallait que je le vende à la télé, ou je sais pas, que je trouve un distributeur de cinéma. Enfin, c'était impossible en fait de montrer un film. Enfin, c'était un parcours du combattant terrible pour le montrer à des gens que je connaissais pas. Et alors aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais YouTube, ça, c'est né en 2005. Hein, c'est d'ailleurs pas le premier site de vidéos communautaires, même si c'est le plus gros aujourd'hui. Et il me semble que ça fait partie. C'est-à-dire que on est en capacité soi-même de diffuser. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça n'est pas tant que ça en fait, évident je trouve. Et le téléphone fait partie de ce monde-là. Alors je vais vous montrer peut-être trois films. Idéalement, si on pouvait éteindre la lumière, ce serait super. Je vais vous montrer un petit film qui dure 3 minutes de 2005, à l'époque qui s'appelle Ceci n'est pas un film. À l'époque, il est vrai que la qualité technique était beaucoup plus approximative qu'aujourd'hui. Et donc la plupart des films, on ne les mettait pas en plein écran. Il y a quelqu'un, le premier long métrage tourné avec un téléphone portable a été réalisé en 2005 par Jean-Charles Fitoussi, il s'appelle Nocturne pour le roi de Rome, et il est sorti en salle d'ailleurs en janvier 2010. Là. Et il était à Cannes à la semaine de la critique en 2006. Il utilise cette image très approximative en plein écran pour sa beauté plastique. Enfin. Et ça c'est un petit film, voilà, vous allez voir, qui est vraiment très ancien. On ne peut pas éteindre plus ? je suis assez exigeant là-dessus. Non. Non, on peut pas.
On peut pas. On voit, hein.
Bon.
Et c'est, mais à mon avis, il n'y a pas de problème.
C'est pas vraiment là.
Non, non, c'est pas ça.
Attendez, le son n'est pas assez fort. Je préfère juste, avant que ça commence, est-ce que c'est de mon fait? Vous pouvez monter le son en cabine?
Oui, s'il est noir comme ça, il vaudrait mieux faire l'obscurité.
Ce serait mieux. Bah, il y a des. Non.
Vous pouvez monter le son?
Excusez-moi, mais faut que
le dispositif. Est-ce que c'est possible de monter, de mettre le son plus fort? Ouais. Et vous pouvez pas éteindre la lumière dans la salle?
Ah, voilà.
Ah, il y a une rampe, encore allumée. Ah.
Ah,
ah non. Bon.
Allô? Oui. Je suis juste sorti marcher un peu. Je vais prendre dehors et puis la nuit est belle. La rue est calme. Il a fait très chaud aujourd'hui, alors les gens restent chez eux. Ils profitent tranquillement de la fraîcheur retrouvée. La lune est presque pleine, je sais pas pourquoi, mais la nuit paraît souvent plus calme quand la lune est pleine. Tu sais, sur mon téléphone, il y a une caméra. Je crois pas que ce soit pour faire des films. De toute façon, je ne suis pas cinéaste, je ne fais pas de films. Donc je crois que mon téléphone avec une caméra, ce serait plutôt comme une boîte à souvenirs. Et des souvenirs qu'on pourrait échanger. Des images qu'on sort des ailes, comme des clins d'œil. Tiens, tu te souviens de ces nuages qu'on regardait ensemble, en cherchant ce qu'ils pouvaient bien représenter? Tu les vois? Qu'est-ce que tu y vois? Comment ça, un éléphant? Non, là, tu exagères. On a toujours plein d'images qu'on aimerait partager, des petits mystères ou bien des petits secrets. Comme ce cimetière breton où sont alignés contre un mur les noms des bateaux perdus en mer. Tu te souviens? Ou bien ce moment où Claire nous a appris à faire un avion en papier.
Plier la feuille en deux, bord à bord, bien amorcé.
Cette grosse araignée qui t'a fait tellement peur. Bon, je crois que tout ça ne peut vraiment intéresser que nous deux. Mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de filmer autre chose et pour autre chose? Donc, avec le téléphone, ce que j'ai envie de faire, c'est juste des images comme une conversation. Quelque chose qui voyageait entre deux personnes, entre toi et moi. Un film de mon œil vers le tien, de ma bouche vers ton oreille. Alors, regarde bien ce que je vais te dire. Et si on est coupé, je suis pas inquiet. Je suis sûr que tu me rappelleras et que toi aussi, tu me feras ton petit cinéma au creux de mon oreille.
Je vais vous montrer un autre film qui est une fiction qui dure 8 minutes. 2006.
Il en a fait d'autres, parce qu'un de l'air après.
On a fait quelques-uns.
c'est très émouvant.
Ouais,
salut,
tu vas bien?
Oui,
toi? Ouais, je t'appelle parce que je dois avoir
une petite
soeur, ma mère m'a demandé de regarder ma soeur. Je suis toi, vous pouvez faire un babysitting ce soir.
Oui, t'as demandé, c'est sûr?
Bah non, j'ai commencé par ça, en plus j'ai pas son nouveau numéro.
Bon, je l'appelle, bouge pas.
Écoute, je te remercie, je t'en prie. Il nous rachète, hein.
Allô?
Allô?
Oui, c'est Julie, tu vas bien? Jean n'a pas son numéro de téléphone et il cherche quelqu'un pour garder sa sœur ce soir.
Ah, je peux pas. Je vais en Suisse pour deux jours.
Salut.
Sinon, je peux demander un axe. Je dois l'appeler, il est à Paris.
Ça me va. Tu t'en occupes alors?
Non, pas de problème. À plus tard, je te rappelle. Allô, c'est Mathieu, tu m'entends?
Ouais, ouais.
T'es chez toi, là?
Ouais.
J'ai oublié le câble de mon ordi. Tu peux penser à le prendre, s'il te plaît? Écoute, il y a Jean, un ami de Julie, qui cherche quelqu'un pour garder sa sœur. Tu peux faire ça ce soir dans ton train?
Écoute, là, je suis occupée, là.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éteindre votre téléphone portable?
Bon, écoute, comme son temps, il y a de la friture ici. Tu trouves quelqu'un, tu me rappelles?
Ouais, d'accord, ok. Allô, papa? Ouais, c'est moi. Est-ce que ta stagiaire pourra faire un petit babysitting ce soir, hein?
Moi, je suis pas sûr parce qu'elle est très occupée.
Tu peux lui demander, s'il te plaît?
Nathalie!
Oui?
Vous pourriez faire un babysitting ce soir?
Écoutez, je dis ça tout de suite, je vais demander à mon copain.
C'est bon, papa, j'ai entendu. Bah, t'as qu'à me rappeler tout à l'heure. Allez, ciao, merci.
Allô, mon amour?
Ouais, bébé, je suis occupée, là, je suis en plein cours.
Excuse-moi, mais c'est parce que ce soir, on me propose un babysitting. Ça t'embête si on va de ma soeur plus tôt? C'est mon
Non, franchement, c'est chiant, les zébrous, ils font pour qui, là?
Non, mais je passe pour une merde, moi.
Mais pas du tout, t'es pas là-bas pour faire du babysitting. Il faut que je vais bien, mais ils poussent, là.
Ok.
Bon, bah, c'est bien, j'ai demandé Alexandre, alors.
Je t'embrasse, chérie.
Alexandre, je
t'ai dit,
tu
en
gagner. Tu peux garder un gamin ce soir?
Bonsoir, déjà. À moins que ton gamin soit norvégien, il y a peu de chance que je t'aide.
T'es encore en chaud?
Bah, forcément, de semaine, ça passe pas en trois jours.
Oh, mais. C'est la personne?
En Norvège?
Ouais, arrête. Tu veux bien jouer pour moi? Merci, appelle-moi dans une heure.
Oui, mon amour, c'est moi.
Bonjour, madame.
Tu manques. Comment ça se passe, la traversée?
On n'en a pas trop de vent. On est au moteur, mais le calme, la mer, on s'en est bien. J'ai envie de te voir, Alexandre.
Moi aussi. J'ai envie de me demander de garder un enfant ce soir. Tu connais personne qui pourrait le faire, quand même?
Oui, la fille de mon frère. Je l'appelle, si tu veux.
Merci. Au revoir, amour.
Allô, Louis?
Oui?
Salut, tu sais si ta fille serait d'accord pour un babysitting ce soir?
Quoi? Je suis dans un magasin, là. En plus, c'est mon tour de passer à la caisse.
Et moi, je suis en Antarctique. Alors, tu vas te débrouiller pour appeler ta fille, s'il te plaît.
Putain! Ok, attends.
Vous lui prends ta caisse?
Attendez, j'en ai juste pour deux petites secondes, là.
Écoute, mon père cherche quelqu'un pour garder un gamin ce soir.
Ton père a nouveau aimé?
Non, il m'a demandé de m'énerver.
Ah ben, il y a le frère Roger.
Mais je le connais pas, moi.
Mais t'inquiète, je suis ton cousin, fillette. Je te fais le service, moi.
Merci.
Allez, raccroche. Allô?
Allô, Marc?
Putain, je suis au ciné, là.
Bonjour, mademoiselle.
Ah putain, hey, je te rappelle.
Attends, tu peux aller à Môme ce soir?
Mais non, je suis occupé.
Putain, merde, et ton pote là, Daniel?
Mais j'en sais rien, merde.
Appelle-le.
Ok.
Il y a autant de démarches que d'artistes. Hein. Il y a, voilà. Je veux laisser le temps à la discussion, donc je vais vous montrer encore juste un extrait de film. Et ce film-là, je vous en montre juste deux, trois images, juste des images. parce que c'est un documentaire, je coupe le son, c'est un documentaire tourné dans un hammam par une femme, donc ce sont des images qui ne sont pas possibles, et qui travaille beaucoup sur, comme vous le voyez, sur l'esthétique particulière et picturale de l'image que peut produire ce type d'appareil. Bon, c'est un film qui dure une dizaine de minutes, donc je le passe, mais si vous voulez, la dimension esthétique est aussi quelque chose d'important, parce que ça offre aussi ces possibilités-là. Je vous montre, pour laisser, si on a le temps, peut-être après la discussion, je vous montre le film, et je vous montre un petit extrait de quelques minutes de La Paora de Pippo Del Bono. Pippo Del Bono, c'était un metteur en scène de théâtre italien, et qui a, sur ma proposition, pris un téléphone portable et tourné un film très politique sur l'Italie, qu'il a appelé donc La Peur, et qui vient d'ailleurs d'être gonflé en 35 mm. C'est le premier film tourné avec un téléphone portable qui a été gonflé en 35 mm. Vous allez me dire à quoi ça sert. Mais en fait, étonnamment, ici en France, même quand on sort un film en salle maintenant, alors c'est un film à petit budget, qu'il soit tourné avec téléphone ou pas, hein, on peut sortir un film en numérique, mais en Italie, il n'y a absolument pas l'équipement numérique dans les salles qu'on a en France. C'est pas du tout pareil. Et du coup, dans la mesure où ce film est très demandé en ce moment en Italie, eh bien, la Cinémathèque de Bologne a investi le gonflage en 35 mm. C'est une petite séquence du film. Lisez bien le sous-titrage au début, ça a été tourné l'année dernière.
Fascista e razzista, per questo io sto documentando tutto questo. dovrebbe esserci la piazza piena, dovrebbe esserci migliaia di persone, non tre gatti. Farò una cosa lunga. Scusate, mi sono poi evadendo.
Voilà pour les quelques extraits. Pour terminer, il s'est passé quelque chose il y a pas très longtemps, c'est qu'en fait la caméra dans la poche est sortie du téléphone. C'est-à-dire qu'il y a il y a maintenant des objets qui ont été nommés d'ailleurs Pocket Cam, c'est le nom commercial de l'objet, et qui sont des toutes petites caméras qu'on met dans la poche. La première s'appelle la caméra Flip. C'est une sorte de minuscule objet avec la prise USB qui sort, et donc c'est vraiment shoot and share, quoi. C'est vraiment film et partage, quoi. C'est vraiment fait pour ça. La publicité, on voit le type qui fait son saut à ski, parce qu'un téléphone, malgré tout, ça coûte cher. C'est pas forcément si pratique que ça pour ressortir les images, etc. Et donc, c'est ces petites pocket cam qui coûtent pas cher, qui tournent en haute définition. Vous avez vu sur ce dernier extrait, ne serait-ce que techniquement, que ce film était au Festival de Locarno en 2009 et passé dans une salle de 3000 places. Enfin, sans problème, il tient sans problème techniquement la route. Et ces toutes petites caméras, je vais vous montrer, j'ai pris l'autre jour une photo à la FNAC, au rayon photo, et donc voilà, les pocket cam. Alors il y a la Flip, et la caméra Flip, c'est une caméra qui est fabriquée par Cisco. Cisco, c'est le fabricant du réseau internet, en fait, hein, des gros tuyaux, etc. Et donc Kodak en fait une. Ça me plaît beaucoup, parce que c'est vraiment l'Instamatic, quoi, qui revient. Sony en fait une, il y en aura sûrement d'autres. Voilà, moi simplement ce que je voudrais dire en conclusion, et pour rejoindre le titre de l'exposé, c'est que les formes qu'on accepte de recevoir évoluent complètement. On accepte de voir d'autres types d'images aujourd'hui, et je pense que le cinéma est loin d'être mort. On voit bien que le cinéma se développe fortement en trois dimensions. On regarde les audiences, on voit qu'il y a deux fois plus de spectateurs dans les salles où le film passe en 3D que dans les salles où le film passe en 2D pour les films tournés en 3D. Donc il est évident que ça représente un avenir commercial important pour le cinéma aujourd'hui, alors que ça existe depuis quand même longtemps, mais enfin c'est aujourd'hui que ça prend. Et je pense que de l'autre côté, et on le voit bien dans l'évolution aussi de l'économie, parce qu'il y a aussi des questions économiques derrière tout ça, de l'autre côté, à mon avis, on aura aussi de plus en plus de films spontanés, écrits autrement peut-être, et peut-être aussi dans d'autres lieux et d'autres modalités. Je ne sais pas si vous connaissez l'initiative, parce qu'on a un problème de fréquentation en salle, c'est un scandale à cause des multiplexes, des quartiers limités, il faut qu'il y ait un turnover dans les salles, un film ne peut plus s'installer, c'est fini ça, c'est du passé, ça ne pourra plus jamais arriver, c'est comme ça. Mais il y a une initiative purement cinématographique au Brésil, incroyable, qui s'appelle Movie Mobs, Mobs avec un Z, il y a un site moviemobs.com. Le principe de Movie Mobs, c'est de proposer des films sur le site internet. On dit les films qui nous intéressent, on dit dans quelle ville on habite, et quand il y a suffisamment de personnes, donc il y a une sorte de phénomène de bouche à oreille qui se fait en amont, et quand il y a suffisamment de personnes, ils louent les salles, et les salles sont pleines. Ils ont sorti comme ça des films, notamment un documentaire sur ACDC, je crois, qui a fait extrêmement peu de spectateurs aux États-Unis, qui a fait beaucoup plus au Brésil, parce qu'il y a eu une nouvelle façon, finalement, dans le réseau social, si on peut dire, comme on dit aujourd'hui, de réinventer le bouche à oreille, qui avant se faisait après la sortie du film, et qui, pourquoi pas, parce que c'est toujours un plaisir d'aller partager un film collectivement. C'est le spectacle cinématographique. Nous, c'est un petit peu ce qu'on fait avec le festival, de donner ce statut-là aux images, Et pour terminer, moi, dans le cadre pédagogique, je fais beaucoup d'interventions dans des établissements scolaires ou auprès d'écoles de cinéma comme le Frénois, les Saves, enfin des écoles de cinéma. Je fais des petits stages pour les étudiants, mais aussi pas mal auprès des enseignants. Je pense que la dimension de la diffusion est très importante. C'est-à-dire que juste dans le cadre pédagogique, avant, faire un atelier cinéma, c'était faire un film. La technique pour arriver à faire un film. Mais je pense qu'aujourd'hui, un atelier, en tout cas avec ces outils-là, c'est non seulement faire le film et se poser toutes les questions de langage cinématographique, mais c'est aussi diffuser le film. Comment on diffuse le film ? Comment on le met en œuvre ? Est-ce qu'on le met sur Internet ? Est-ce que, etc., etc. Et c'est pour ça que dans le cadre d'ateliers, moi je suis toujours très attentif au dispositif, justement d'éteindre la lumière, etc., et de donner une valeur à ce moment de la réception et aussi choisir quand les gens, moi je travaille beaucoup sur le plan séquence, je fais beaucoup faire des plans séquences aux gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, le film est fait au tournage, donc ce qui produit une très forte concentration, un geste tout à fait différent, choisir qu'est-ce qu'on va montrer aux autres, s'y préparer, ne pas parler pendant les films. J'engueule souvent des enseignants qui se permettent de parler pendant les films de leurs élèves, etc. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire donner une valeur à l'image, la valeur qu'elle a. Parce qu'une image, on le sait tous, ça peut faire du bien, ça peut faire du mal, ça peut tuer. Enfin, c'est important de faire une image. Et du coup, c'est pour ça que dans le cadre pédagogique, j'essaie de produire aussi cet espace de la réception et pas seulement l'espace de la production. Et pour terminer, faire un film avec un téléphone, se préparer par exemple à faire un film avec téléphone dans un atelier, c'est pas écrire un scénario, c'est pas tout ça. Pour moi, c'est un petit peu comme le travail du peintre, c'est faire 1000 esquisses et puis un jour, un moment, on va filmer quelque chose, il va se passer quelque chose. Et c'est le geste, c'est aussi la valeur de ce geste et de la réelle rencontre qui s'est passée au moment où ça s'est passé. Le film qui a eu, en 2007, le film qui a eu le premier prix du festival, c'était comme ça. Pourtant, le jury était présidé par Claude Miller, qui n'est pas spécialement un cinéaste expérimental. C'était un plan séquence de 8 minutes qu'un jeune homme avait filmé un matin, lui et sa petite amie, dans leur petit studio. Juste ça, juste un moment de vie. Mais c'est quelqu'un qui avait en fait une très très forte pratique, qui filmait tout le temps. Et ce moment de vie-là, il est incroyable de justesse, de beauté, de poésie visuelle, de ce qui se passe, de leur relation. Ça dit 1000 choses sur l'être humain. C'est très fort et très simple. Vous pouvez le voir d'ailleurs, ça s'appelle Porte de Choisy. Parce qu'il y a à peu près 300 films qui sont visibles sur le site internet du festival, Pocket Film. Et donc vous pouvez en voir et les mettre en plein écran. Moi, dans ma pratique personnelle, c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup pratiquer. En ce moment, j'ai une nouvelle caméra, moi, qui n'est plus un téléphone, qui est un magnétophone, un micro, à l'intérieur duquel il y a une petite caméra. Et j'utilise beaucoup ça. Je fais une petite série que vous pouvez voir sur kidam.fr, qui s'appelle « Imaginons un instant ». Je pense qu'il y a des... J'ai fait il y a 4 ans une petite série comme ça, qui est devenue après un long métrage que je montre. Mais après la projection du film, je propose aux spectateurs de tourner la suite. On voit ce que les gens ont fait. Donc, il y a d'autres manières de faire. Et je pense qu'il y a à mettre en perspective l'intérêt. C'est comme le stylo, hein, finalement. C'est la caméra stylo. On a tous un stylo. Mais de là à écrire quelque chose, écrire un poème et tout ça, c'est super difficile. Ça n'est pas facile de faire un film avec un téléphone portable, c'est tout sauf facile, mais c'est assez important, voilà. C'est mon regard. Merci de votre écoute. Et donc, si vous avez des... On peut peut-être rallumer la lumière, là. Je suis là pour écouter les remarques et...
Je vais peut-être faire un petit commentaire selon la tradition bien installée. Merci beaucoup de nous avoir fait sortir du cadre de l'image considérée indépendamment de la manière dont elle a été faite. Alors moi je voulais faire d'abord poser une question. J'ai vu sur l'image que vous avez montrée, il y avait une flip ultra haute définition. Donc on est là au croisement de l'œil au bout du doigt et en même temps de la définition la plus importante dans le film. On n'est pas dans la dégradation de l'image, c'est
du
une
tout.
Haute définition.
Mais il y a même des téléphones, il y a deux modèles de téléphones haute définition, hein, le LG Louvre et un Samsung. Ils disent Ultra HD, mais en fait c'est de la haute définition Full HD. Hein. C'est pas du 4K, c'est du 2K.
Voilà. Alors, sinon, en t'écoutant, je me disais, dans les trois caractères que tu as donnés, hein, l'avoir toujours sur soi, pouvoir diffuser facilement sur YouTube, et puis la troisième, on est engagé différemment. Le fait d'être engagé différemment, c'est toute une tradition des technologies du spectacle. Il y a toujours deux pôles dans les technologies de prise d'image. Il y a un pôle dans lequel il y a un perfectionnement de plus en plus grand de la qualité de l'image. Et puis d'un autre côté, il y a toujours un pôle du côté de l'implication émotionnelle de celui qui prend l'image et de celui qui la regarde. Alors, si on prend la photographie, ça a donné une sophistication incroyable, les appareils photo d'un côté, et puis d'un autre côté, tout le courant qu'on a appelé la photographie à povera. On en a eu des exemples ici. Le fait de bricoler des boîtes à chaussures pour en faire des boîtes de prise de vue, le fait d'utiliser des appareils jouets, le fait d'utiliser des instamatiques, comme tu as dit. Donc, d'un côté, des appareils photographiques de plus en plus sophistiqués qui compensent le mouvement, qui ont des profondeurs de champ extraordinaires, etc. Puis d'un autre côté, l'appareil jouet, la boîte à chaussures. Alors, il me semble qu'on assiste au même mécanisme actuellement dans le jeu vidéo. D'un côté, on a des jeux vidéo hyper sophistiqués comme Heavy Rain, et puis d'un autre côté, on a des jeux vidéo qui jouent sur des choses extrêmement simples, et c'est ceux qu'on développe sur iPhone. Actuellement, au niveau des jeux vidéo, on a aussi cette double tendance qu'on a trouvée dans la photo depuis 20 ans. Donc, qu'on le trouve au niveau de la petite caméra qui équipe nos appareils téléphoniques, c'est pas propre à l'appareil téléphonique. C'est toujours ces deux mouvements que moi j'appelle un mouvement de distanciation, c'est-à-dire on se met devant, on met à distance, et puis un mouvement d'instanciation par lequel on se met dedans. Et donc, il y a vraiment toujours ces deux tendances. Et en même temps, pour revenir sur ton titre, le téléphone mobile est-il l'avenir du cinéma ? Bon, bien sûr que non, hein, comme tout le monde. Il y a une phrase de Victor Hugo qu'on a souvent citée dans le cadre des cahiers de médiologie, c'est dans Notre-Dame de Paris, quand un chanoine s'inquiète du fait que le livre remplace à terme la religion, que la religion du livre remplace la religion de Dieu, et Victor Hugo dit non, ceci ne remplacera pas cela, ceci ne chassera pas cela. Et on a actuellement le même débat par rapport aux écrans et aux livres, hein, que tu as dû suivre. Il est bien évident que les écrans ne chasseront pas le livre, et il est bien évident que le téléphone mobile ne chassera pas le cinéma. Mais on a toujours ces deux mouvements, hein, de cultiver l'émotion d'un côté, ou de cultiver les perfectionnements technologiques de l'autre. Voilà, enfin, c'est pas trop une question, c'est peut-être une réflexion qui peut entraîner les tiennes.
Ben c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis, mais c'est vrai que le secteur du cinéma est quand même très normatif. Et moi, mon regard là-dessus, c'est quand même assez nouveau. Et quand je dis le téléphone portable est-il l'avenir du cinéma, ce que je veux dire, c'est pas que ça va remplacer le cinéma ou remplacer la caméra, c'est une autre caméra, une autre façon de faire qui finalement apporte quelque chose au cinéma, mais sans rien remplacer du tout. Mais ça, je veux dire, c'est dans l'histoire, hein. C'est-à-dire que il y a eu la nouvelle vague, il y a eu la caméra DV, enfin voilà, là maintenant c'est des caméras encore plus petites. Je pense que, enfin, moi, ce que je vois aujourd'hui, en tout cas chez les cinéastes autour de moi, c'est que, bon, depuis 5 ans, on expérimente tout ça avec les téléphones, et là, je vois que c'est évident, quoi, pour des cinéastes, de s'acheter et d'utiliser ces toutes petites caméras qu'ils ont dans la poche. Et cette évidence-là, elle est assez nouvelle. C'est-à-dire que j'ai la sensation que ça commence maintenant. On a expérimenté et puis c'est maintenant que ça va commencer et je pense que ça va produire réellement des choses.
Oui, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce que tu as dit, c'est le fait qu'avec ce genre d'appareil, le film part de l'image, il part pas d'un scénario. Ça me paraît extrêmement intéressant, en effet. On fait des images et on voit après comment faire un film. On ne prévoit pas de faire un film et de le tourner le jour où le scénario et le découpage des plans aura été effectué.
Ouais. Ça, c'est bien. Tout à fait.
Il y avait d'abord...
On va faire passer le micro.
Oui, ce qui m'a frappé dans ce que tu as dit, c'est que ce que tu dis du téléphone portable comme outil de tournage, il y a tout un mouvement qui le dit de la même chose. Vous avez tous entendu parler des nouveaux réflexes qui ont une capacité de filmer la vidéo haute définition. Et il y a exactement et les mêmes reproches et les mêmes qualités qui sont proclamées sur l'outil. Donc il y a 3 mois, à l'association de techniciens du cinéma, je suis parti. On a fait une réunion là-dessus et on a entendu et les mêmes cris d'orfraie et les mêmes cris d'enthousiasme sur l'outil, justement en disant on filme à bout de bras, on n'a plus l'œil sur les tons, on filme le bras en l'air. Et toutes ces choses sont exactement les mêmes critiques et les mêmes qualités reconnues aux deux. Ceci dit aussi, ce que je vais préciser, c'est que sur les films que tu as montrés, il n'y a peut-être pas eu de scénario, mais ils sont remarquablement scénarisés. Et enfin, juste une petite chose, au niveau du calcul de l'image, certes, c'est de l'image haute définition, mais c'est de l'image de haute définition qui est complètement calculée mathématiquement, alors qu'une image haute définition, justement, d'un appareil comme le Canon 5D, elle est calculée mathématiquement, mais déjà beaucoup moins, et que ça change aussi la texture, l'allure de l'image, même si elle est en haute définition.
Ce que tu dis est très juste, et c'est vrai que là, c'est un phénomène très récent dans le cinéma académique. C'est vrai que vous allez sur un tournage aujourd'hui, c'est fou, quoi. C'est-à-dire que la caméra est en train de disparaître du cinéma professionnel. Enfin, la caméra telle qu'on la connaissait, le 24-36, il est, mais de, je sais pas, peut-être un tournage sur deux, c'est incroyable. C'est allé à une vitesse folle, là, dans les 6 derniers mois. Et donc, c'est le boîtier 24-36 qui donne la qualité d'image, la qualité optique de l'image 35 mm, parce que c'est la surface d'image 35 mm, la profondeur de champ, etc. Et du coup, mais alors c'est marrant parce qu'en effet, il y a les deux écoles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent toute une machinerie, c'est-à-dire qu'il y a le petit 24-36, mais autour, il y a le follow focus, donc en fait, c'est une caméra comme avant, quoi, on a juste, et puis il y en a qui l'utilisent autrement, mais du coup, il est vrai que les pratiques changent beaucoup et du coup ça va assez loin en effet dans toutes les pratiques professionnelles et notamment dans les pratiques de lumière et d'illumination parce que il y a des systèmes d'amplification automatique des lumières qu'on n'avait pas du tout avant et qui permettent d'avoir des images qu'on ne pouvait pas avoir avant où il leur fallait beaucoup beaucoup d'éclairage
et avec la disparition de postes justement comme le pointeur, des choses comme ça où les gens disent, mais comment je vais pointer? Vous ne pointez pas comme avant, vous pointez autrement. Pointer, ça veut dire faire le point, la mise au point. Vous la faites autrement, c'est-à-dire que vous jouez sur la profondeur de champ, vous jouez sur des technologies de suivi du personnage automatique, comme il y a sur certains de ces appareils. Et donc, toute l'écriture cinématographique est en train de bouger pour acquérir une souplesse par rapport à la rigidité de l'utilisation de la caméra classique.
Oui, tout à fait.
Bonjour.
Oui, tu as terminé là, en parlant des petites caméras et puis de ton magnétophone caméra. Moi, ça me paraît quelque chose de complètement différent des films faits sur téléphone. Quand on filme avec un téléphone, on pense quand même que c'est un téléphone. Et d'ailleurs, on voit bien dans les films qui ont été projetés dans ton festival, beaucoup intègrent les fonctions du téléphone dans leur scénario, ou dans la façon de filmer, je ne sais pas, le GPS, les messages écrits, etc. Et c'est quelque chose qui me semble important à souligner, parce que cet objet-là, il porte des contraintes en ce moment, lui, c'est un téléphone. Un peu comme l'Oulipo, hein, les poètes, comme ça, se donnent des contraintes, quand on se donne des contraintes, on va filmer avec un téléphone, et on pense que c'est un téléphone, et on va essayer d'intégrer ça dans la façon de filmer. Si on filme avec un magnétophone, on va penser son. Sans doute plus d'images, en fait, etc. Donc je crois que ce sont des objets assez différents. Et les petites caméras sont vraiment des petites caméras. Hein. Ce ne sont plus ni un téléphone, ni un magnéto. Ce sont des petites caméras, c'est tout. Et ça ne change pas grand-chose par rapport aux petites caméras Fuji, par exemple, qu'on pouvait avoir en 8 mm, qui étaient comme ça, qui permettaient de filmer aussi. Ce qui change quand même, c'est la durée de filmage, enfin bon, ce genre de choses. Mais on est quand même dans la problématique à ce moment-là du cinéma. Et puis, un deuxième point que je vais souligner à propos du titre de ton intervention, moi je crois que le téléphone portable est déjà le présent du cinéma dans un certain nombre de pays, et notamment en Afrique. Mmh. En Afrique, il y a beaucoup de films qui se tournent complètement avec des téléphones portables.
C'est
ça, ça coûte moins cher. Avec 5-6 téléphones portables, on peut faire un long métrage qui sera projeté et qui sera même parfois diffusé sur téléphone portable. En Afrique, les salles ferment pour des raisons de sécurité, hein, mais on peut voir les films sur son téléphone portable, chez soi. Donc, je ne sais pas, enfin, moi ça me paraît un bon titre.
Il y a une différence quand même par rapport au téléphone portable ou aux mini-caméras par rapport aux petites caméras miniatures avant. C'est qu'il n'y a pas d'endroit par où les prendre qui est spécifiquement désigné. On peut la prendre de partout. Une petite caméra, il y a quand même un endroit où on la prend. Là, il n'y a pas d'endroit où on le prend. On peut le prendre dans tous les sens.
On peut pas mettre la main sur l'objectif. On ne peut pas mettre la main sur l'objectif.
Dans les mini-caméras, constamment, on met la main sur l'objectif.
On
oublie tout le temps. On la met constamment.
Donc, voilà, c'est ça.
Oui, parce qu'on peut la prendre de tous les côtés. Justement, c'est très bien.
Non, on a fait ça avec la petite Fuji, hein. C'est pareil. Hein. C'est juste Non, je pense qu'il y a des différences, c'est vrai, mais ça reste une caméra. C'est-à-dire, dans la façon dont on... La relation qu'on peut avoir avec cet objet-là, on pense caméra. Beaucoup plus qu'avec un téléphone portable, on pense pas caméra. On pense téléphone.
Je voudrais remarquer aussi quelque chose, c'est que tu as donné un titre, le téléphone est l'avenir du cinéma. Et tu le traites que comme outil de tournage, tu ne le traites pas comme outil de diffusion.
Alors, juste pour répondre à Roger déjà, et ensuite je te réponds. Il est vrai que les objets sont très différents, je suis d'accord avec toi, mais en fait je pense que il y a les objets et la façon dont on les pratique. C'est assez complexe en fait. Et nous, pour le festival, c'est assez complexe parce qu'on reçoit plein de films et à un moment donné, on ne sait même plus, vu l'évolution des techniques, on ne peut pas savoir, on ne peut plus savoir si ça a été tourné avec un téléphone ou avec un appareil photo. Techniquement, c'est en plus les mêmes caméras qui sont dedans, en fait, etc. Et du coup, il y a des gens qui utilisent un téléphone comme une vraie de vraie caméra, et puis des gens qui utilisent un appareil photo presque comme ils utiliseraient un téléphone. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence de nature, de la relation, tu as absolument raison. Mais en fait, dans l'expérience des films, des objets eux-mêmes, il y a des films qui sont tournés avec des téléphones, mais on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas pris une caméra, quoi? Ça aurait été, c'est absurde qu'ils aient, pour faire ça, qu'ils aient pris un téléphone.
Oui, c'est bien ça que je voulais dire. Ça perd son intérêt.
Ouais.
Si on tourne avec un téléphone comme avec une caméra, c'est pas la peine de tourner avec un téléphone.
Ah non.
Donc, je pense que c'est bien d'avoir en tête que c'est un téléphone, ou que c'est un magnéto, ou que c'est un appareil photo. Moi, j'ai fait des films avec un appareil photo. C'est pas la même chose que faire un film avec une caméra. On va d'ailleurs éventuellement mélanger photo, toi et film, en fait, etc. On va faire des choses qu'on ne ferait pas avec une caméra habituellement, parce que c'est un appareil photo. Je crois qu'il y a quand même ce poids de l'appareil originel, si je peux dire, qui est stimulant pour la création.
Oui,
et si on nivelle tout, et il y a une tendance à tout niveler, Moi, je suis frappé de voir qu'il y a des films tournés sur téléphone, c'est simplement du cinéma, comme on aurait pu en faire avec une caméra.
Ouais.
C'est intéressant.
Oui.
Je suis passé la majeure période.
Oui, j'ai toujours un peu de mal à, par expérience longue, à suivre le raisonnement quand on se concentre sur un seul instrument. Alors, j'ai travaillé sur la vidéo dans le temps, sur plein de choses. Et la question que je me pose, parce que j'étudie beaucoup les pratiques des générations actuelles sur Internet, dans la société, est-ce que vraiment on peut dire que le téléphone cinéma est tout seul? Est-ce que les jeunes, les gens qui tournent, ne communiquent pas en même temps sur Twitter, par exemple? Est-ce que la séquence filmée est vraiment indépendante de tout le contexte de télécommunication dans lequel les jeunes évoluent aujourd'hui? Est-ce que il est pertinent de parler d'un long métrage? J'en sais rien, c'est une question. Alors que moi, je crois que très souvent, dans les systèmes de communication qui se mettent en place dans les jeunes, au sein des jeunes, entre les jeunes, il y a des mix de séquences de langage, d'icônes, de smileys, de séquences. Est-ce que vous avez envisagé une approche globale du contexte? Parce que là, vous avez parlé du film, vous avez parlé de la référence au cinéma, mais vous n'avez pas parlé finalement du contexte culturel global. En fait, ça se passe comment ça se passe?
Ben, en fait, si vous voulez, on a une approche extrêmement partielle des choses, il est vrai. À dessein, comme je l'ai dit au début, il y a les pratiques sociales que vous décrivez, et puis il y a les pratiques de création. Alors, quelle est la limite entre les deux, etc. Il est vrai que le référentiel cinématographique est fort, c'est sans doute notre culture, etc., parce que le lieu qui produit cet événement est un lieu où on montre du cinéma, etc. Donc, je pense que ça joue sociologiquement, ça joue beaucoup aussi, hein, bien sûr, on ne parle que de là où on est. C'est vrai que je ne suis pas entré dans beaucoup de détails. Il y a quand même beaucoup de films qui naissent par exemple à partir de vidéoblogs et qui en effet proviennent de ce type de pratique. Et ce dont parlait Roger du fait de la mention sur l'écran, il y a beaucoup de films, on voit la mention, on voit la charge de la batterie qui joue dans la narration, on voit l'heure, enfin il y a tout un tas de choses. On voit les SMS envoyés sur l'écran. Et en effet, vous avez absolument raison de le souligner, il y a aussi des gens qui nous disent « Mais moi, j'écris avec ça, mais je fais aussi des photos, aussi j'écris un roman à partir de ça. » Enfin, du coup, il y a bien sûr que les vidéos... et du coup, c'est vrai que quand on parle long métrage, finalement, on se remet dans le référentiel culturel qui d'ailleurs peut-être un jour va disparaître parce que ça n'est qu'une convention, hein, long métrage, hein. Donc vous avez pleinement raison, et c'est très complexe parce que les pratiques artistiques se relient aux pratiques sociales et donc comment faire la limite entre les deux, vous avez pleinement raison, mais c'est vrai que moi j'ai dit au début aussi que je traitais un point tout précis qui est le nôtre. Et là où j'en vois le bénéfice en termes pédagogiques, c'est dans le fait de donner de l'attention à la fabrication de l'image. Et où là, c'est vrai que le référentiel cinématographique nous aide beaucoup, parce qu'une image, c'est important, etc. Alors que sinon, c'est un peu difficile dans tous ces réseaux de distinguer, de regarder l'image et de la sortir de cette espèce de flux très, très rapide. Vous parlez de Twitter. Bien sûr.
J'avais fait, au début des années 80, une étude sur les enfants avec téléphone avec mon équipe, mon labo. Et à un moment, les gosses nous posent une question. Et monsieur, le téléphone, il sera comment en l'an 2000? Ouh, c'est compliqué. On paye, on garde, il y a peut-être des liaisons radio. Les gosses, ils nous regardent, ils disent, c'est en l'an 3000. Alors là, tu par un travelling arrière, tu te sens reculer vers l'an 1000. Derrière tout ça, dans ma réflexion en cours, je me demande s'il n'y a pas un nouveau baroque qui est en train d'émerger. Un peu la rupture, le Moyen-Âge, la Renaissance, on voit que tous les systèmes culturels sont en mutation, s'effondrent, se modifient. Alors évidemment, la première question, c'est de se demander si nos systèmes culturels sont en train d'avoir ces mutations-là. Mais on est obligé aussi de tenir compte des pratiques culturelles des jeunes générations que nous avons sous les yeux. Et est-ce que ça va remettre en question des choses comme aussi élémentaires que la notion d'outil, par exemple. Ce que je vois, par exemple, dans le film, là, ce sont des valeurs à l'œuvre qu'on va observer dans les pratiques des jeux vidéo. On voit le cheminement. C'est la personne qui avance, qui filme, qui témoigne. C'est plus la référence du scénario global, du spectacle. On voit le fait de se montrer. Ça, il y a qu'à voir dans les blogs, dans les choses comme ça. C'est ce que toi, Serge, tu appelles l'extimité. Hein? On voit cette chose-là. Il y a des valeurs qui sous-tendent. La question qu'on doit se poser maintenant, me semble-t-il, c'est est-ce que ces valeurs sont différentes des générations précédentes ou est-ce que ce sont les mêmes, recouvertes de peintures différentes? Vous voyez, c'est toute cette affaire-là qui peut être intéressante aussi. Est-ce que vous avez un peu des données sur les producteurs des films que vous avez montrés? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les gens eux-mêmes?
L'âge, le sexe.
Oui, je peux vous en dire un petit peu plus. C'est extrêmement diversifié, c'est-à-dire que, mais ça n'est pas le reflet d'une réalité sociale, parce que nous, si vous voulez, déjà les gens qui tournent dans leur vie comme ça n'en voient pas leurs films, parce qu'ils voient bien ce que c'est que c'est cet événement, et ils voient bien, bon voilà. Et du coup, il y a des cinéastes comme par exemple Marcel Hanoun a une production régulière, c'est un des plus cinéastes les plus âgés français. Il y a des gens comme par exemple Alain Fleischer qui fait chaque année un film, qu'il a fait un long métrage. Il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à aller au bout de son film parce qu'il a eu beaucoup de problèmes techniques, c'était Chris Marker, mais qui était aussi très intéressé par l'expérience. Donc il y a des gens du cinéma comme ça qui s'intéressent. Après il y a toute la production, on va dire accompagnée, parce que on propose beaucoup d'ateliers, il y a un service de pédagogique, on est partenaire avec beaucoup d'autres personnes en France et dans le monde qui proposent des ateliers. Donc là on va dire que c'est un public captif entre guillemets, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans des MJC, des centres sociaux, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de films faits par des jeunes comme ça, mais c'est pour la plupart des gens avec qui on a été en contact, si vous voulez. Et puis des films qu'on reçoit comme ça, de gens qu'on ne connaît pas, il faut quand même bien dire que c'est plutôt des jeunes gens, hein. Principalement des jeunes gens qui ont un peu plus ou un peu moins de 20 ans, voilà, et qui s'approprient cet outil. Mais malgré tout, comme je disais tout à l'heure, faire un film, mais on utilise le mot film, il n'est peut-être pas pertinent. Je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites, parce que nous, avant de prononcer ce mot-là par rapport aux productions faites avec ces outils-là, il nous a fallu pas mal de temps, parce que c'est après coup, en voyant comment les gens s'étaient appropriés ça, on a vu que les gens avaient fait des films. Mais c'est aussi une façon de donner une valeur, enfin c'est le référent culturel qu'on a à notre portée pour donner une valeur à ces images. Mais après, parce que on est partenaire avec à peu près tous les autres événements du même type qu'il y a dans le monde, et c'est un peu du même ordre, il y a beaucoup de pratiques accompagnées, des pratiques sociales du genre prêter des téléphones à des prostituées dans une favela pour qu'elles documentent leur quotidien, c'est diffusé. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives de cet ordre-là, de se réapproprier son propre réel par sa représentation. Mais c'est principalement des choses accompagnées. Ce que les gens font eux-mêmes, on ne le voit pas. Donc, je ne peux pas vraiment en parler, quoi. Peut-être juste pour répondre à votre question sur la diffusion sur téléphone, c'est aussi des questions qu'on s'est beaucoup posées, mais en fait c'est une question moi que je me pose plus du tout et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on peut regarder des choses sur le téléphone et on a cru, et les industriels de l'audiovisuel ont cru, parce que quand ils ont vu, avec tout l'argent que gagnent les compagnies de téléphones mobiles, etc., les producteurs, en 2005, quand c'est apparu, les producteurs de télévision se sont dit, on va produire pour le téléphone mobile, on va gagner plein d'argent, ils gagnent tellement d'argent, etc. Et en fait, on a cru un temps qu'il y aurait une spécificité, de même qu'il y a une spécificité de la production télévisuelle par rapport à la production cinématographique. On a cru, à mon avis, ça appartient au passé maintenant, qu'il y aurait une production, qu'il y aurait un marché spécifique du téléphone qu'on a dans la main. Et d'ailleurs, le CSA le croit encore, l'État le croit encore avec le projet de la TMP, la télévision mobile personnelle, qui, à mon avis, ne verra jamais le jour, mais c'est mon avis, pour tout un tas de raisons. Moi, ce que je constate, c'est que, moi, j'ai cru ça aussi. Et on a essayé de montrer sur téléphone des choses spécifiquement conçues pour téléphone. On continue à montrer, par exemple, Isabella Rossellini a écrit, réalisé et joue dans une série qui s'appelle Green Porno, qui a été produite par Sundance. Vous pouvez les voir sur Internet, Green Porno, vous les trouverez, c'est très drôle. Elle met en scène la vie sexuelle des insectes, c'est-à-dire comment ils font l'amour, les insectes, les animaux marins, c'est très compliqué, c'est très très drôle, ces choses-là. Et c'est conçu dans le cadrage, dans la durée, dans le rythme, même dans la bande-son, c'est vraiment conçu pour être vu sur le petit écran du téléphone. Mais c'est parce que le Sundance Institute essaie de produire des pratiques innovantes toujours. Mais en réalité, elle a vendu ses trucs à Arte, ils sont diffusés principalement en télévision, elle n'a jamais vendu à une compagnie de téléphone mobile. Donc en fait, ça marche aussi sur d'autres écrans. Et quand on va dans les transports en commun et qu'on regarde un peu les gens qui regardent des vidéos, parce qu'on voit de plus en plus qui regardent des vidéos, et moi je suis surpris, il y a l'écran de l'iPhone, vachement bien l'écran de l'iPhone, il est assez grand, etc. Si on est assez proche, enfin proportionnellement, il n'est pas si petit que ça en fait. Mais moi, je vois des gens qui regardent sur des sortes de mini lecteurs MP4 tout petits sur un micro-écran. Et qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent des longs-métrages tournés en scope. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, les images traversent les écrans. Ils ne vont pas forcément d'ailleurs regarder le film entier, mais ils vont regarder là, et puis ils arrivent chez eux, ils regardent la suite sur leur écran plus grand. Et je pense que voilà, cet écran-là, c'est finalement un écran comme les autres. Et les contenus les traversent. Et les opérateurs de téléphonie mobile réfléchissent beaucoup sur ce qu'on appelle un peu la fluidité comme ça des choses, c'est-à-dire que je commence à regarder, j'arrive chez moi, je continue, et que finalement, quel que soit le médium, j'accède à mes contenus, finalement. Donc moi, il me semble que la diffusion sur mobile n'est plus un sujet en soi, c'est un écran parmi d'autres, à mon sens.
De films lors du dernier festival parce que l'expérience coréenne que j'ai pu avoir, que les Coréens ont 10 ans d'avance sur nous, c'est-à-dire qu'en gros le téléphone chez eux c'est à partir de 95 à peu près, ou 97, et effectivement ils ont eu toute une période de festival de films, notamment sponsorisé par Samsung, puisque Samsung fait le téléphone dans le monde, et que d'autre part c'est une Corée très riche. Et ça s'est passé, 2004-2005, ça s'est arrêté en fait. Je me demande si la nouveauté n'est pas liée à l'innovation technologique, sachant que maintenant le taux d'équipement en Corée c'est 380%, c'est-à-dire que tout le monde a 3,8 portables. Ça les intéresse plus beaucoup en fait. Est-ce qu'il n'y a pas de réponse à la question, enfin au titre de c'est-à-dire que non, c'est pas l'avenir, parce que ça a été un moment. Très, très enthousiasmant parce que l'objet était technologiquement nouveau et puis ça se tasse. Parce que somme toute, la qualité du cinéma est très chère.
Ils sont trop bons. Ils sont trop bons.
Oui, oui, oui.
C'est ils sont trop bons.
N'importe quelle caméra.
J'entends tout à fait ce que vous dites, et c'est pour ça que moi, je, malgré ce que tu disais tout à l'heure, Roger, je pense qu'en fait, moi, à mon sens, il y a le cinéma de la mise en scène et il y a le cinéma de l'écriture. Je pense que voilà, c'est deux pratiques tout à fait différentes, avec différents outils qui produisent des choses différentes. Et ça, je pense que ce cinéma de l'écriture, il a un avenir. Et pour moi, le téléphone portable est plutôt un signe de cette démarche-là, mais il n'est pas le seul. Et voilà.
Une petite question, là. Dans le film sur le cherche de visiteur, il y a une partie qui est en pellicule.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est, les réglures verticales qu'on voit, les trucs comme ça?
C'est pas des rayures de la pellicule, c'est si tu veux, c'est le flair, c'est-à-dire, tu sais, c'est le flair de la vidéo, hein, qui fait des les rayures, les téléphones produisent beaucoup, ça dépend desquels, mais
il y a même des espèces de poils qui traînent sur l'écran, des choses comme ça.
Écoute,
quand il est dans la baignoire là.
Ah oui, mais alors ça c'est OK, on va revoir ça parce que ça, c'est un effet de style. Il a rajouté, parce que comme c'est un moment de mémoire où il se souvient de son préparatif, et ben du coup, c'est rajouté en post-production. Mais ça c'est justement des effets vidéo tout à fait classiques. Je coupe le son. Oui, je vois absolument. Parce que là, tout ça, c'est. Et là-dessus, il a rajouté artificiellement, mais ça. On a ça dans.
La pellicule au moins, je dirais.
Oui, c'est le signe du flashback, quoi. Il l'a pas mis en noir et blanc, il a mis bon, mais ça.
Ça veut dire quand même qu'on est plutôt dans l'hétérogénéité de l'image, quoi, disons que dans l'image du téléphone, je dirais, non? Enfin, l'avenir est à l'image mixte, non? Vous croyez pas?
Je sais pas, en fait. Je pense qu'il y a toujours eu des différents statuts pour signifier quelque chose dans un film, signifier le passé, signifier le souvenir et tout ça. Mais moi, j'ai plutôt la sensation, enfin en tout cas dans les films entre guillemets innovants qu'on peut voir, qui utilisent justement les petites caméras, etc., des films un peu mainstream, quoi, si on peut dire, bah, au contraire, c'est plutôt assez homogène dans le style de l'image. Enfin,
vous croyez qu'il y aura une esthétique du téléphone mobile?
Non, esthétique, non. Des pratiques.
Non, parce que, je veux dire, qu'il y ait un allègement des conditions techniques de filmage, la nouvelle vague est venue de là, par exemple. Hein.
Dans le film de Fit aussi, il y a vraiment une esthétique du téléphone
mobile. Oui, mais ça va durer combien de temps? Ça va être utilisé combien de fois? Est-ce que ça va créer une esthétique stabilisée? Est-ce que c'est l'avenir du cinéma? Ça voudrait dire que ça va créer une esthétique qui va remplacer l'esthétique du cinéma. C'est en ce sens-là qu'on peut l'entendre.
Le problème, c'est que les écarts technologiques sont en train de se combler, et qu'à partir du moment où les écarts technologiques vont se combler, l'indifférence qui va rester, c'est la manière de tenir l'outil. C'est-à-dire que ce soit l'appareil photo numérique, le téléphone portable, ils n'ont pas de poignée, comme disait Serge tout à l'heure, et que c'est donc des outils que vous tenez autrement qu'une caméra. Et c'est là où il y a une différence qui restera, c'est pas dans la différence technique, parce que ces différences vont se combler très rapidement.
Vous croyez à ça? Vous croyez que ça va se combler? On passe notre temps à voir l'écart grandir entre ce que peut faire le commun des mortels et ce qui va sortir sur grand écran. Qui aujourd'hui peut se payer en amateur de se faire un film comme Avatar?
C'est une partie du cinéma. Aujourd'hui, il y a des longs-métrages qui sont tournés avec un canon 5D.
Il n'y a plus beaucoup de films qui peuvent se permettre de ne pas dépenser des sommes extraordinaires. Il y a au contraire, je pense qu'il y a une grande répartition qui commence à exister dans le cinéma, qui est purement financière, qui n'est pas du tout technologique.
Ça dépend de comment va évoluer la projection. L'exemple brésilien que citait Benoît tout à l'heure est un exemple extrêmement intéressant, justement. Et en France, aujourd'hui, on voit des retours de films qui sont projetés, par exemple, plus que le mercredi après-midi pendant 3 mois, parce que justement, ils sont en projection numérique et qu'on a une clé qui permet de les projeter tous les mercredis après-midi pour les enfants. La question, à mon sens, c'est plutôt comment va évoluer la salle. La question d'aujourd'hui, c'est comment va évoluer la salle et comment va évoluer l'approvisionnement de la salle.
Moi, je voudrais revenir, vous aviez fait allusion à un moment, effectivement, à des mobilités, à des caméras mobiles. Je trouve qu'avec Francis Albert, il y a 5 ans déjà, il a construit pour la NASA des toutes petites des caméras encore plus petites que celles que vous avez montrées. Ces caméras, on les a fait refabriquer par des jeunes. On les a mises sur un mini dirigeable pilotable. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment ça percute les intérêts des jeunes d'aujourd'hui pour la géolocalisation. C'est-à-dire programmer quelque chose qui va aller voir les choses. Mmh. Et ça, c'est un phénomène intéressant, moi j'y crois beaucoup. On va lancer un stage de formation avec des petits débrouillards sur cette question-là dans pas longtemps. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas forcé de passer par les acquisitions du marché et du marketing pour faire de la prise d'image simple, qui évidemment n'aura pas certainement des hyper qualités professionnelles, mais enfin, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a un certain nombre de scientifiques de la photographie qui se préoccupent de ce genre de choses, c'est-à-dire de faire des protocoles simples de construction d'appareils pour que les jeunes apprennent à faire de l'image correcte.
Alors, pour réagir aux plusieurs questions, j'ai une première chose, on a pendant 2 ans fait une coproduction avec Arte, 10 courts-métrages coproduits, tournés avec téléphone portable, qui ont été diffusés à l'antenne, et produits par le service des programmes courts d'Arte, qui a investi pas mal d'argent, donc téléphone portable, ça fait un peu moderne et tout. Et le problème d'Arte dans ces projets-là, c'est qu'en fait, ils avaient peur du résultat. Donc, il fallait des scénarios, il fallait tout comme il faut, comme on fait un film. C'est les films les moins intéressants qu'on ait montrés dans le festival parce qu'ils ont été tournés avec un téléphone, mais tout le dispositif est le dispositif académique. Donc, ils peuvent être sympas, mais bon, pas d'intérêt en tout cas par rapport à notre sujet. Ça, c'est une première chose. Par rapport à l'écart qui se creuse, à l'écart financier, c'est évident que, mais ça on le voit bien, il suffit de lire le rapport Ferrand, on voit bien, il y a beaucoup plus de films à très gros budget, beaucoup plus de films fauchés, et puis plus de films du milieu comme ils les appellent. Mais je pense que justement, et c'est un peu pour rejoindre ce que vous dites, justement, c'est pas, il ne s'agit pas de dire il y a un renouveau du cinéma tel qu'on le connaissait et ça va faire des nouveaux films dans les salles, moi je pense pas non plus, mais il y a un exemple par exemple d'un cinéaste qui s'appelle M. Strange, un jeune cinéaste, vous allez sur internet vous le trouvez, un jeune cinéaste américain, il a fait un film qui n'est pas tourné avec un téléphone, une sorte de petit film d'animation à la Tim Burton, mais c'est du sous Tim Burton, il a fait ça dans son coin tout seul. Il a investi une communauté, c'est-à-dire que les acteurs, en fait, c'est juste des gens photographiés. Il a proposé aux gens de leur envoyer leurs photos et de devenir acteurs de son film. Donc, il avait déjà à peu près 1000 personnes qui allaient lui acheter son DVD. Son film est diffusé sur YouTube. Et il y a une sorte de phénomène. Lui, il gagne à peu près sa vie, pas très richement, mais il gagne à peu près sa vie juste en ayant fait son film dans sa cuisine et en faisant ça. Et son film est passé justement au festival de Sundance. Il a vidé la salle, c'est-à-dire que les gens sont sortis. C'est vrai, quand on voit ce film, enfin, moi, ça me fait très étrange. Moi, j'ai pas envie de regarder ce film. Mais il a un public ado, 14-15 ans, absolument fan de son film. Et du coup, c'est en effet une autre économie qui n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui fait un film tout seul, qui gagne l'argent dont il a besoin juste lui. Et c'est clair que c'est absolument pas en concurrence avec Avatar. Voilà. Mais au demeurant, les pratiques, on voit des films tournés avec des... La caméra RED, par exemple, qui est utilisée, c'est une caméra de rien du tout. Hein. La caméra, c'est un tout petit machin, c'est pas du tout, ça coûte rien. Ça coûte 15 000 euros, une caméra RED. Donc, malgré tout, les outils changent aussi dans la production professionnelle. Et Avatar, il coûte cher parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'il y a 1000 décors, etc. Mais les outils utilisés, c'est les outils de tout le monde, en fait.
Non, je pense que ça coûte cher parce qu'il y a besoin que ça coûte cher. C'est tout le besoin du marché dont on parlait tout à l'heure, Samsung, par exemple. Ils ont besoin de vendre des téléviseurs en relief, ils ont besoin de...
Oui,
en permanence.
Absolument.
Il y a besoin de revendre, effectivement, des téléphones portables, mais aussi de... Il y a eu l'écran plat, le 16e, ça n'avait pas d'intérêt particulier, il n'empêche que c'est fait pour vendre. Et c'est bien pour ça qu'il y a besoin de produits de prestige et qu'il y ait une espèce de concentration du marché mondial qui sera inaccessible pour la plupart des réalisateurs. Mais je pense pas que. Enfin, je pense que vous. En revanche, je pense que vous focalisez peut-être trop sur ce qui est le cinéma. Enfin, quand vous dites le cinéma, je veux dire, ça focalise trop sur le long métrage de fiction, etc., international et autres, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le cinéma. Je pense que notamment le portable a énormément apporté de choses en matière d'actualité et de documentaire. C'est-à-dire que typiquement, un des éléments fondamentaux, je pense, du portable, c'est sa multiplicité. Alors ça, vous l'avez dit, mais c'est qu'il il y a une espèce d'ubiquité complète de l'image de portable qui fait qu'on peut voir des événements qu'avant on n'aurait jamais vus. Enfin, typiquement, le tsunami, etc., ou des choses comme ça. C'est-à-dire, donc on a une source d'images quasi inépuisable, virant, etc., des choses qui sont considérables. À mon avis, là, le portable révolutionne complètement la fourniture d'images d'actualité, avec l'effet ontologique dont vous parliez tout à l'heure, hein, tout à fait, mais qu'on retrouve également, ou qu'on pourrait retrouver dans des films, dans du cinéma documentaire. Là, je ne sais plus comment s'appelle le film de Zhao Liang, qui se passe en Chine, mais où typiquement, il y a souvent besoin d'avoir un élément extrêmement léger pour filmer. D'abord parce que des fois, il faut être un peu clandestin ou autre, et que par ailleurs, en plus, plus la caméra est petite, plus elle évite l'espèce d'intrusion de l'objet technique dans la relation. Donc là, dans tous ces domaines-là, je pense que c'est tout à fait fondamental. Ouais. En matière de cinéma de fiction, j'y crois pas beaucoup dans ce moment. D'autant plus qu'on parle caméra, alors que derrière, je veux dire, tout le reste c'est du montage.
Oui.
Et le montage, il se fait pas sur le portable. Hein, c'est-à-dire qu'il y a derrière quand même au moins un Final Cut Pro ou un truc comme ça pour aller faire le montage. C'est-à-dire que de toute façon, derrière, il y a quand même et des apprentissages, et des technologies, etc., qui permettent que ce soit monté, qu'il y ait un scénario écrit ou pas écrit, mais qu'à la fin, ce soit quand même scénarisé, etc.
Bien sûr.
Plutôt le don des agents qui prennent.
Reprends le micro là-bas.
Pardon.
Pas le portable, le micro.
On pourrait penser aussi que ça renouvellerait complètement la conception de l'art. Hein. C'est-à-dire, ce qui se fait avec ce portable, ce sont des œuvres éphémères, faites pour disparaître. Et l'important, c'est de les faire. Et c'est Valérie qui disait, enfin Valérie était passionnée par ça, ce qui est important dans une sculpture, c'est quand on l'a fait, c'est pas le résultat. Ce qui intéressait Valérie dans une sculpture, c'était le moment où le sculpteur faisait la sculpture. Le résultat intéressait guère. Je crois qu'il y a une nouvelle conception de l'art aussi qui est en train d'apparaître là, qui est cette idée d'œuvre éphémère. Et on voit très bien comment des jeunes, par exemple, s'emparent de cet outil-là, prennent un grand plaisir à faire du film. Ça ne donnera jamais une œuvre. Mais parce qu'il y a une nouvelle conception de l'art. L'art n'est plus dans l'œuvre, il est dans le faire.
Ça a toujours existé. Dès qu'il y a eu un appareil photo, il y a des gens qui ont aimé appuyer sur le bouton. Hein.
Mais ça, c'était pas de l'art. C'était dans le film de famille ou la photo de famille.
Oui, mais la plupart des films faits par des ados sont des trucs entre copains qui n'ont aucune prétention artistique.
Il y a aucune prétention, mais il y a de la part de ceux qui les font l'idée de se situer dans le domaine de l'art. De plus en plus.
Oui.
Il y a une conception de l'art qui n'est pas seulement d'ailleurs liée à ça, un peu partout, dans laquelle l'œuvre n'a plus d'importance. C'est le faire qui est important.
Oui, sauf qu'ils le mettent sur YouTube quand même, pour que ça soit vu.
Oui,
c'est pas que le faire.
On réinvente un peu la roue parce que le film que vous avez montré ressemble
exactement. Prenez le micro, prenez le micro.
Voilà, le film, c'est quoi, c'est pour guerre en temps où Romain Goupil se montre aussi devant la caméra et il y a, je sais pas, il y a 15 ans, c'est en 68, il aurait un portable. En fait, ça, c'est exactement le même scénario, somme toute, à part qu'il y a quand même 68 derrière, alors que là, il y a la Norvège. Bon, mais rien n'est changé véritablement, c'est une sorte de. La technique a changé.
D'ailleurs, c'est.
En fait, le rêve. Il réside dans le mot portable. Parce que la coutance a été portable, la vidéo, moi j'ai travaillé sur la vidéo portable, vous travaillez sur le téléphone portable. Il y a quand même un désir. Il y a un désir de pouvoir se balader, de cheminer, d'aller chercher des choses. Moi je crois que ça c'est quelque chose de très fort. Je le relis pour ma part à la géolocalisation. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, vous avez des jeunes, on va dire de 25, entre 25 et 30 ans, qui cherchent à se situer, à trouver un appartement en fonction de critères de possibilité d'emploi, mais de plus géométrie. Ça existe, je ne vais pas inventer, j'étais même de plus géométrie. Pourquoi ? Parce que ils voient qu'il va y avoir des réchauffements climatiques, des choses comme ça. C'est cette idée de nomadisme. Est-ce que vous avez remarqué l'ordinateur portable, lui aussi, il est dans un sac à dos. C'est pas un hasard pour moi que la plupart des gens aient leur ordinateur portable dans un sac à dos. Ça, du point de vue symbolique, c'est très frappant. C'est une humanité qui se met en marche avec des outils pour explorer le monde. Mais c'est ça que ça veut dire.
Bien sûr.
Et c'est l'âme de fond, moi, qui m'intéresse personnellement.
Bien sûr. Malheureusement, il n'y a plus de connexion internet. Je voulais vous montrer un film qu'il y a sur le site internet. Du coup, je vous en donne le titre, qui s'appelle GPS Yourself, et qui est très drôle. Je vous le raconte, c'est quelqu'un qui est dans la rue avec son téléphone, qui cherche son chemin. Et en fait, il prend son téléphone, il le jette en l'air, et on voit l'image faite par le téléphone, et on s'élève au-dessus du quartier. Et ensuite, on voit le type, et puis il le rattrape. En fait, il y a un petit parachute. Et puis il consulte, et puis c'est bon, il a trouvé son chemin. Donc voilà, c'était juste un petit exemple. Mais je crois que c'est Virilio qui disait que le sédentaire d'aujourd'hui, en fait, il est en déplacement. Parce qu'en fait, il n'y a même plus de distinction entre les deux, quoi. On emmène tout avec soi, c'est sûr. Dans le disque dur que j'ai dans mon sac, c'est pas un sac à dos, mais mon petit disque dur, j'ai un teraoctet, et ça, voilà, j'ai toutes mes données tout le temps avec moi, crypté quand même.
Oui,
au cas où.
Je veux dire un mot par rapport à l'importance du mot portable, et aussi le détournement du fait d'utiliser un appareil photo d'utiliser un téléphone pour faire des photos, des films. D'ailleurs, c'est un gros problème, je crois, des fabricants aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut faire évoluer la technologie vers des outils spécifiques, un outil pour causer, un outil pour filmer, un outil pour enregistrer, ou s'il faut faire évoluer la technologie vers vers des appareils qui aient toutes les fonctions. Et il y a les deux courants. Le fait de voir des petites... Moi, je ne savais pas qu'il y avait ces petites caméras qui étaient sorties, qui n'ont qu'une fonction de caméra. Mmh. Mais d'un autre côté, vous avez des iPhones où on peut faire des tas de choses avec. Donc il y a les deux tendances, soit la technologie qui se spécialise, soit la technologie qui fait le couteau suisse.
C'est vrai, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est quels sont les mouvements d'idées derrière. Mmh. Alors évidemment, il y aura toujours les convergences et les divergences technologiques.
Mais je pense que
quels sont les désirs et les attentes des gens.
Je pense qu'à l'adolescence, ce qui est important, c'est le détournement. Je ne vois pas un adolescent utiliser une petite caméra qui n'est faite que pour faire du film. Je le vois beaucoup plus utiliser un appareil polyvalent et détourné. Donc je pense que ce serait intéressant de voir qui achète ces petites caméras.
Je pense que travailler sur le détournement des jeux.
Oui, c'est le détournement.
Parce que tu dois savoir que moi, maintenant, c'est pas intéressant de jouer à un jeu vidéo, c'est intéressant de détourner.
Absolument, oui.
Oui, c'est vrai que le détournement, mais ça suppose aussi que les gosses comprennent très bien l'outil de départ. Oui. Alors le détournement, c'est vrai que c'est aussi une des valeurs fortes. Oui. Ça, c'est sûr.
Ce que je voulais dire, c'est l'idée du détournement.
Enfin, moi, par rapport au détournement, je pense que c'est quelque chose qui est assez visible. Mais moi, pour travailler quand même régulièrement avec des jeunes, c'est comme les minorités politiques, quoi. C'est très visible, mais c'est, je pense, pas la majorité des gens. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, parce qu'il m'arrive aussi de faire des ateliers création de jeux vidéo, etc., et je suis confronté à des adolescents qui découvrent, qui n'ont jamais fait de hacking ou de choses comme ça. Enfin, il y en a qui le font, mais ils sont très visibles, mais ils sont très peu malgré tout. Non ?
Voilà les effets de la politique de l'éducation nationale qui leur a jamais donné les concepts, qui leur a donné les outils. En 85. On a travaillé avec un groupe de jeunes sur la dalle des Olympiades, à côté d'ici, dans le 13e arrondissement. Ils étaient en conflit avec un prof au lycée Claude Monet. Et ils nous ont demandé à les aider à modifier dans un jeu d'arcade qu'ils avaient trouvé la silhouette d'un vaisseau spatial et la remplacer par la silhouette du prof. Et ce pauvre malheureux prof n'a jamais su qu'il avait été pulvérisé symboliquement des milliers de fois par les élèves. Donc ils ont l'idée du détournement. Ils peuvent avoir l'idée du détournement, mais ils n'ont pas forcément le savoir-faire pour le faire, parce que c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des coopérations, il y a des choses comme ça qui fonctionnent.
Bien sûr.
Bien sûr.
C'est que on voit des petites projections à la télé.
Pardon ?
Je crois que le détournement, il est très présent dans la télévision actuelle. Y compris les plus sérieuses, on change, en particulier, on change le commentaire, le dialogue, etc. Ça commence comme ça. C'est-à-dire que les détournements que font les jeunes, ils ont l'école de ce qu'ils voient chez eux, qui existe, et ils restent prisonniers des schémas habituels. Hein.
On pourrait dire aussi qu'ils sont situationnistes. Le grand théoricien du détournement, c'était Guy Debord. Hein, ben,
bon. Bien, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Mais écoutez, merci en tout cas pour cet exposé. Bravo.
Merci.
On va se réchauffer.